Bien, alors là, c'est un exercice assez extraordinaire de passer après toi parce que j'ai absolument pas les mêmes souvenirs de choses que nous avons vécues ensemble. Entre autres, alors le fait d'avoir été leader en 68, c'est faux. Absolument faux parce que je disparaissais sous le tapis à ce moment-là. Enfin, là n'est pas allé. C'est très valorisant. Bien. Alors, peut-être juste pour la petite histoire, aujourd'hui j'ai passé la journée avec mon petit-fils et donc j'avais complètement oublié cette soirée. Tout à coup, à 6h15, je me suis dit, mais j'ai quelque chose ce soir. Et donc j'ai très vite préparé, mis par écrit des choses que j'avais élaborées dans ma tête depuis déjà pas mal de semaines, depuis le moment où tu m'avais demandé de faire cet exercice. Donc ce sera beaucoup moins construit que ce que tu as fait. Moi, j'ai compris la question que tu nous as posée en disant, au fond, pourquoi je suis devenue militante en 68 et pourquoi je suis restée. Plutôt que... qu'est-ce qui a fait que, moi, mais pas seulement, les gens qui sont ici, finalement, une étincelle s'est allumée. Et le feu, en quelque sorte, a continué. Qu'est-ce qui a fait que, en 68, ça a été un peu comme un tremblement de terre qui a provoqué un tsunami, qui a emporté beaucoup de gens, et puis la vague est retombée, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qu'on avait connus à l'époque qui sont repartis, rentrés dans le rang, rentrés dans le cadre. Et puis, il y a une partie des gens qui sont restés, pour qui cette étincelle... a produit un feu qui a flambé très fort ou couvé, mais qui en tout cas dure encore. Alors je crois que moi aussi, je pour répondre à ça, j'ai fait aussi le détour par ma famille, qui est un peu l'opposé de ce que tu racontes. Mes parents, juifs polonais, émigrés... on partit à cause de l'antisémitisme dans les années 30 en Tchécoslovaquie, ensuite en Italie où ils ont vécu la guerre et donc de ce fait là survivant, je suis donc en quelque sorte, moi et ma soeur, on est en quelque sorte des enfants de survivants, donc passant depuis l'Italie en France, ensuite en Suisse, donc vraiment l'image du juif errant me collait à la peau. Nous étions apatrides, moi jusqu'à l'âge de 20 ans, plus ou moins, mes parents, ils sont morts apatrides. Ce qui fait que, donc sans nationalité, avec des passeports un peu bizarres, ce qui fait que j'ai très très vite appris la ruse, qui m'a été inculqué d'ailleurs par ma mère, beaucoup. Ma mère était la spécialiste des faux papiers dans son groupe pendant la guerre en Italie, donc elle avait tout un stock de faux papiers. Elle savait très bien faire ça. Donc on a appris la ruse, le mensonge, parce qu'on n'avait jamais des papiers vraiment en règle. Et d'ailleurs, en passant, j'ai lu l'autre jour dans mon dictionnaire d'étymologie que mentir avait la même racine que la pensée, ce qui voulait dire qu'au fond, pour mentir, il faut savoir réfléchir et penser beaucoup plus finement et plus profondément qu'en disant la vérité. Même le mensonge, au fond, c'est l'élaboration d'une pensée. J'ai vécu donc ça, mais j'ai vécu aussi, parallèlement, aussi très vite, comme petit enfant, l'humiliation et l'injustice, tous les problèmes à la frontière, jamais les papiers en règle. Je me suis fait descendre d'un train, je me souviens, parce qu'il fallait un visa pour entrer et sortir du pays. J'habitais en France à l'époque et j'avais les visas pas en ordre. Donc j'ai assez vécu dans ma peau cette problématique... des papiers, en tout cas de l'identité. Et ma première, en tout cas, pensée, je ne sais pas si c'est une pensée politique ou autre chose, c'était de préparer une bombe pour faire sauter le bureau des étrangers. Et comme j'étais chimiste, je faisais des études de chimie à l'époque, préparer ça. Ma famille, les deux, étaient plutôt progressistes. J'étais toujours baignée dans un climat plutôt de gauche, progressiste, mais complètement hors sol. Du fait du fait qu'ils étaient apatrides, ils ne se sont jamais impliqués dans le local, jamais impliqués dans une... Alors ils avaient toujours, surtout mon père, des grandes théories, ils pouvaient tout nous expliquer sur la guerre d'Algérie, sur, je me souviens, l'enlèvement de Ben Barka, tout ça, je savais tout là-dessus. Mais ce qui se passait dans l'endroit où je vivais, ça, il n'a jamais... J'ai jamais été intégrée dans cette réalité du local, du terrain, aussi parce que j'allais dans une école privée pour des raisons aussi très compliquées liées aussi à ce statut, parce qu'on pensait que je deviendrais française, donc il fallait que je fasse le bac. Enfin, tout ça fait que j'étais complètement... je me sentais vraiment hors sol. J'aime pas tellement le terme de racine. Je cite toujours un auteur dont j'ai oublié le nom, qui dit les humains n'ont pas de racines, ils ont des pieds. Et voilà, ça me plaît bien. Donc j'aime pas ça, mais vraiment cette sensation d'être hors sol, d'être cultivé vraiment hors sol, et pas du tout d'être là. Là, ici, maintenant. En fait, c'est quand je suis entrée à l'Uni en 66 que ça a commencé à changer pour moi, parce que j'ai commencé à connaître des vrais Suisses, entre guillemets, plutôt issus des milieux populaires ou petits bourgeois. Et tout à coup, ça me semblait être vraiment la vraie vie. Et puis, il y a eu effectivement 68, j'avais 20 ans. Je ne comprenais pas grand-chose, je savais qu'on nous disait, oui, à Paris, il y a des manifestations, ils brûlent les bibliothèques. Et puis il y a eu les premières assemblées avec du commun, Michel du commun, qui était aussi en sciences, l'ASU, c'était ça, je crois, et qui venait, et j'ai commencé là un peu à entrer dans ce mouvement. Mais vraiment, avec des yeux grands ouverts, des oreilles grandes ouvertes, il y a eu les premières manifs, l'occupation du rectorat, les assemblées immenses à l'Uni, là, dans la Grande Aula. Et pour moi, je me souviens par exemple d'un comment il s'appelait, le grand Feuze. Non, le grand... Jean-Louis Feuze, voilà. Lui, ça a été une révélation pour moi, je me souviens de cette assemblée. Tout à coup, il s'est levé, on parlait de légitimité, est-ce qu'on a le droit de faire ça et tout ça. Il a dit, les lois sont faites pour être transgressées. Et ça, pour moi, ah, enfin, mais bien sûr. Ça avance peu comme ça. C'était vraiment, tout à coup, l'illégalité, la légitimité liée à l'illégalité, tout à coup, ça devient une évidence pour moi. Et tout à coup, vraiment là, j'ai commencé à me sentir chez moi. J'ai commencé à dire, ouais, c'est là chez moi, je suis arrivée chez moi, c'est là, je suis arrivée à Bonport, j'ai les pieds vraiment plantés sur le sol, et c'est à ce moment-là, je crois, que j'ai décidé que je ne quitterais pas vraiment Genève, alors que depuis qu'on s'était installé à Genève, depuis l'âge de 10 ans pour moi, c'était évident que je ne resterais pas là, c'était évident que je devais aller faire mes études ailleurs, c'était évident que je ne vivrais pas là, que ce n'était pas chez moi. Et là, tout à coup, à cause du mouvement, j'ai commencé à dire, oui, là, c'est chez moi. Pas parce que j'aime Genève, pas parce que j'aime la Suisse, mais parce que j'aimais ces gens que j'ai rencontrés là. Mais au fond, j'ai commencé vraiment à militer vraiment en 69. Je ne comprenais rien, moi, aux différents groupuscules. Je me souviens d'assemblées où il y avait des gens, des trotskistes, le groupe A, le groupe Z, etc., qui se disputaient, j'ai jamais rien compris à rien. Et du coup, je me suis plutôt rapprochée des gens les plus marginaux de ça, qui étaient dans un groupe qui s'appelait Groupe des luttes internationales, où il y avait un ramassis de tous les gens portugais, espagnol, brésilien, tous les gens pas comme il faut, pas tous ceux qui n'étaient pas dans ces groupuscules, qui s'intéressaient effectivement plus par rapport à des événements, entre autres ce qui se passait au Brésil à l'époque, c'était quand même la dictature, aussi l'Espagne. Et j'ai commencé donc à aller à ces réunions sans y comprendre grand chose. Et ma manière de montrer mon désarroi, ou je ne sais pas quoi, c'était que je m'endormais. Donc j'ai dormi très profondément dans toutes ces réunions. Et voilà. Et en fait, je me suis réveillée à un certain moment pendant les manifs. C'était à l'époque des manifestations contre Franco, à l'époque de comment il s'appelait, les deux qui devaient, puis Gantic, là, qui devaient se faire garrotter, où il y avait les cellules espagnoles, le Parti communiste principalement, enfin les Espagnols de Genève, qui étaient très actifs, il y avait des grandes manifestations, et on disait toujours, on va aller à l'ambassade, on va tout casser, etc. Puis arrivé devant le cordon de la police, tout le monde s'arrêtait, on repartait, et c'est là que je me suis réveillée en disant, mais si on veut y aller, on y va, on se donne les moyens, on y va. C'est peut-être là que j'ai pris cette stature que tu as pu admirer, de dire, non mais, si on veut faire quelque chose, on se donne les moyens. C'était aussi à ce moment-là la vie en commune, qui a commencé comme une colocation, puis qui s'est terminée, qui a continué dans une vie plus commune. C'était aussi l'apprentissage pour moi de la vie autonome, du travail aussi, de façon très marginale, parce que ce n'était pas du tout ça ma préoccupation. J'avais absolument pas investi mon travail, je le détestais, j'étais enseignante à l'époque au cycle. Et tout le monde, le directeur pendant 6 mois m'a pris pour une élève. Donc c'était assez dur, quoi. J'aimais pas ça du tout. Après je me suis mis au chômage. C'était vraiment le travail, c'était c'était absolument pas ça que j'investissais. C'était aussi bien sûr l'apprentissage de l'amour. Et puis en 73, ça a été la rencontre avec le féminisme, pas du tout avec le MLF. Je trouvais que ces femmes du MLF, je me souviens avoir écrit un texte qui s'appelait « Il faut pousser le MLF dans les orties ». Cette préoccupation, je ne comprenais rien au féminisme, mais du coup, c'était quand même, avec Alda, entre autres, et d'autres femmes, on se réunissait. Moi, on habitait à l'époque dans une cave dans la vieille ville, dans un appartement dans un sous-sol, on l'appelait la cave, et on se réunissait là. Et au fond, on avait appréhendé la question du féminisme à travers, dans une grille plus marxiste, entre guillemets, qui était celle du salaire au travail ménager, qui était donc vraiment une analyse marxiste du rôle des femmes dans le travail et du travail ménager comme reproduction de la force de travail. Et puis, assez vite, on a rejoint le MLF. Et je me souviens d'une première fête, je ne sais pas si c'était en 73, je crois, qui avait eu lieu à la maison d'Injonction. Oui, c'est ça. On avait montré le film Histoire d'art.
Oui, c'était septembre, septembre.
Et ça m'avait complètement ravie, parce que c'était totalement le contraire de ce qu'on faisait dans les fêtes militantes gauchistes. C'était de dire, on veut que ça soit un endroit non seulement qui a une signification politique, mais qui soit beau. Et je me souviens toujours, Alda, tu avais sorti toutes tes dentelles, tu avais plein de rideaux de dentelles.
De ma grand-mère.
De ta grand-mère. Et c'était magnifique, décoré. Et tout à coup, il y avait une autre approche à la politique qui était aussi non seulement d'en faire un geste d'affrontement, mais aussi d'en faire presque un geste esthétique. Et c'est vraiment là, je crois, que je me suis réveillée totalement avec le féminisme, parce que finalement, je comprenais parfaitement ce qui se dit, non seulement ce qui se disait, mais j'arrivais moi-même à élaborer un discours, une pensée, parce qu'au fond, tout ce dont je parlais, je l'avais vécu, que ce soit dans mon corps, dans mon couple, ou dans mon parcours de jeune fille qui n'avait pas du tout envie d'être sage. Je passe là très très rapidement sur tout ce qu'on a fait, parce que il y a eu des années où on en a fait tellement que j'ai cru, comme j'ai une très mauvaise mémoire des dates, j'ai l'impression que ça a duré 10 ans. Puis en fait, quand on refait la chronologie, ça a duré une année. Il y a eu effectivement les communes, ensuite la commune de femmes. Parce qu'au fond, il y avait cette désir, volonté, ou pas seulement peut-être volonté, même simplement... Dans la suite, on avait peu de partage entre ce qu'on faisait comme dans nos lieux de vie et dans nos lieux de militance, et je pense qu'à peu à peu, on vivait dans une maison avec des hommes, ils sont tous partis parce qu'ils ne supportaient plus. J'imagine, à part Alain, je crois qu'il est le dernier qui est resté, le fait que les femmes prenaient, en tout cas le féminisme, occupait de plus en plus le lieu. C'est là que j'ai commencé à habiter avec Suzanne, ensuite avec Alda. Et il y a eu aussi l'occupation du centre femme, qui a été pour moi un moment d'une grande intensité, l'anticongrès, l'occupation des locaux du Parti démocrate chrétien, beaucoup de manifestations, avec ce que tu as dit aussi, cette insolence, cette manière très directe de dire, d'aller pas affronter, mais confronter en tout cas nos ennemis en personne, directement. Il y a eu aussi un ou deux petits épisodes de prison de un ou deux jours, que j'ai pas beaucoup aimé, mais enfin bon. Et là, vraiment, pour moi, vivre et militer, ça faisait qu'un. La radio aussi, la radio Pleine Lune, enfin toutes ces... Avec aussi des moments de pour moi, de grands désenchantements et de grandes crises. Une des grandes crises, pour moi, ça a quand même été le suicide d'une de nos amies très proches, Sylvie, qui pour moi, vraiment a représenté la fin, non pas du mouvement des femmes, mais en tout cas du MLF, dans le sens que le mot d'ordre « Ensemble, nous sommes fortes » a buté contre les détresses individuelles et sur lesquelles on n'avait rien pu faire. Et ça a été vraiment un moment que j'ai vécu très, très douloureusement. Et depuis quelques années, je me suis un peu retirée, en tout cas d'une militance classique, en partie parce que je ne supporte plus les réunions. Je crois que je pourrais m'y rendormir de nouveau. Je ne m'y rendors pas parce que je suis devenue impatiente. Donc je ne les supporte plus. Les réunions comme ça, j'admire Olivier qui fait 10 réunions par semaine. Je ne sais pas comment il fait, vraiment. Je ne peux plus aller dans ce parcours... On se réunit pour organiser quelque chose, etc. Ce que j'apprécie par contre, c'est plutôt les moments de débat, les réunions de discussion, l'élaboration d'une pensée. Ça, c'est quelque chose qui me motive encore beaucoup. Et puis, j'aime les manifs. J'aime les manifs parce que je crois que j'aime être dans la rue, occuper la rue à la place des voitures, être dans la rue autrement que comme passante ou consommatrice, c'est quelque chose qui me plaît. Et donc je m'y sens bien et ça, c'est ça me plaît toujours. Un héritage de 68, la rue, elle est aussi pour... voilà. Aujourd'hui, j'ai plutôt, je pense, investi, au contraire de mes des années précédentes, j'ai vraiment, depuis une dizaine d'années, vraiment beaucoup investi mon milieu professionnel, mon travail. Donc, je travaille dans la question de la santé au travail. Et je me sens là-dedans plutôt comme ce que les Italiens appellent les intellectuels organiques. J'espère, en tout cas, j'aimerais l'être. C'est-à-dire arriver à réfléchir à une problématique théorique qui sont les transformations du travail et des conditions de travail et transformations à l'œuvre dans le travail et arriver par différents moyens à les faire partager pour alimenter une réflexion des actions et éventuellement des actions militantes. On a eu une ébauche de cela avec un petit groupe qui s'appelait Santé, Travail et Mondialisation, qui était de dire qu'est-ce que c'est que la mondialisation dans notre pays, où là je crois que j'ai pu amener ce que j'avais élaboré dans mon cadre professionnel dans un cadre plus militant, et je pense qu'à travers des moments de partage, de conférences, d'interventions, soit dans les syndicats, soit ailleurs, j'essaye d'avoir ce rôle. J'aimerais encore terminer Oui, par deux points qui, pour moi, ont été et sont toujours essentiels. D'un côté, c'est les enfants, nos enfants. On a voulu faire des enfants et vivre avec des enfants. Moi, j'ai vécu avec des enfants avant d'avoir ma fille. Et c'était un désir qui s'est installé assez vite dans nos vies de communes, de partager aussi avec des enfants, c'est-à-dire partager avec l'avenir. On voulait avoir ces enfants dans des structures qui n'étaient pas justement papa, maman, la bonne et moi, mais dans d'autres structures plus ouvertes, où nos enfants ont reconnu d'autres enfants, d'autres adultes, d'autres référents. Et j'en suis très heureuse parce que je trouve que nos enfants, dans l'ensemble, sont magnifiques. Et donc, je pense qu'on a pu leur... quelque chose de ce qu'on a pu vouloir leur faire passer du passé. Et puis aussi mes amis, qui sont devenus plus que mon sol sous les pieds, mais qui sont devenus ma vraie famille, et qui, depuis 30 ou 40 ans... je partage des moments, et que ce soit des moments pas seulement de militance, mais aussi d'autres moments. Et c'est pour moi les choses qui me restent aujourd'hui de tout ça, c'est ça aussi. C'est effectivement un réseau d'amis qui fait que je me sens chez moi, un réseau d'amis plus proches qui ai toujours été sans famille en quelque sorte, puisque j'avais que papa, maman et rien d'autre, ma soeur, puisque tous les autres sont partis en fumée, et donc d'avoir retrouvé à la fois un lieu, à la fois de l'amour, de l'amitié, une famille, et c'est ça pour moi aussi qui est un des résultats de 68. Voilà.